Chapitre 4. Suite du récit du prêtre. Autoroutes occultes. 1. Le trajet depuis l'arrière-cour du presbytère jusqu'à la porte principale de Notre-Dame de la Sérénité n'était pas bien long, et il ne leur prit pas plus de 5 minutes. Elles ne suffirent pas aux vieux pour faire le récit des années passées à vivre comme un clochard, jusqu'au jour où il avait lu un article dans l'Abeille de Sacramento, qu'il avait ramené à New York en 1981. Pourtant, les trois pistoleros entendirent toute l'histoire. Roland pensait qu'Eddie et Susanna comprenaient aussi bien que lui ce que cela signifiait quand il quitterait Calabrian Sturgis, à condition qu'il n'y meure pas. Il était fort probable que Donald Callahan partirait avec eux. Il ne s'agissait pas seulement de raconter son histoire. Il s'agissait du kef, le partage de l'eau. Et si on laissait de côté le Shining, qui était une toute autre histoire, le kef ne pouvait se partager qu'entre ceux que le destin avait réunis pour le meilleur et pour le pire, par les membres d'un même katet.
Vous connaissez cette expression « Tu n'es plus au Kansas, Toto ?»
demanda Callahan. Disons que cette expression nous dit vaguement quelque chose, Trésor, répondit Susanna d'un ton sec.
Vraiment ? Ouais, je vois que c'est le cas, rien qu'à la tête que vous faites. Peut-être un jour me raconterez-vous votre histoire, vous aussi. J'ai comme l'idée que la mienne me ferait honte à côté. Quoi qu'il en soit, je savais que je n'étais plus au Kansas en approchant du pont de la passerelle. Et il me semblait que je n'entrais pas au New Jersey non plus. Du moins, pas celui que je m'attendais à trouver sur l'autre rive de l'Hudson.
Il y avait un journal chiffonné contre la rambarde du pont, qui semble complètement désert, en dehors de sa présence à lui, alors qu'à sa gauche, la circulation sur le grand pont suspendu est chargée et continue, et Callahan se baisse pour le ramasser. Le vent tiède qui souffle sur le fleuve fait volter autour de ses épaules ses cheveux poivre et sel. 2. Il n'y a qu'une seule page pliée. Il voit qu'il s'agit de la première page du registre de Ledbrook. Callahan n'a jamais entendu parler de Ledbrook. D'ailleurs, ça s'explique, il n'est pas spécialiste du New Jersey. Il n'y a même pas mis les pieds depuis son arrivée à Manhattan, un an auparavant. Mais il a toujours cru que la ville de l'autre côté du pont George Washington s'appelait Fort Lee. Et son esprit se laisse absorber par les gros titres. Le premier lui paraît rassurant. À Miami, les tensions racistes s'apaisent. Depuis quelques jours, les journaux new-yorkais ne parlent plus que de ces affrontements. Mais que doit-il penser de cette manchette ? La guerre des cerfs-volants se poursuit à Teaneck, au Hackensack, accompagnée d'une photo d'un immeuble en feu. On voit aussi des pompiers arriver sur un camion, mais ils sont aussi là. Et cet autre titre ? Le président Agnew soutient le projet Terraform de la NASA. Et cet article en bas de page, écrit en cyrillique.
Qu'est-ce qui m'arrive ? Se demande Callahan.
Durant toute cette histoire de vampires et de morts vivants, et même avec l'apparition de ces affiches qui font clairement allusion à lui, il n'a jamais remis sa santé mentale en question. Mais à présent, planté sur cette humble et ô combien remarquable passerelle, cette passerelle que personne à part lui n'emprunte, il finit par le faire. L'idée même que Spiro Agnew soit président était déjà assez incroyable en soi pour que n'importe quel individu possédant un minimum de sens politique en vienne à mettre en doute sa propre santé mentale. Cet homme tombé en disgrâce des années auparavant, avant même son patron.
« Que m'arrive-t-il ? »
se demande-t-il. Mais si la réponse, c'est qu'il est devenu fou furieux et qu'il est en train d'inventer tout ça, il n'a pas très envie de savoir, finalement.
« Bon vent !»
dit-il en envoyant les 4 pages restantes du registre de Ledbrook par-dessus la rambarde du pont. La brise l'emporte vers le pont George Washington.
« Le voilà, le réel !»
se dit-il. « Juste là !» Ses voitures, ses camions, ses bus, charter Peter Pan.
Mais là, au milieu, il voit un véhicule rouge qui semble avancer sur des chenilles. Au-dessus du corps du véhicule, gros comme un bus scolaire de taille moyenne, un cylindre cramoisi tourne sur lui-même. « Bandy !» est écrit d'un côté. Brooks apparaît sur l'autre. « Bandy Brooks » ou « Bandy Brooks ». Qu'est-ce que ça peut bien être? Il n'en a aucune idée. Il n'a jamais vu non plus un engin pareil de toute sa vie. Et jamais il n'aurait cru possible, non mais regardez-moi un peu ces chenilles, au nom du ciel, qu'on le laisse circuler sur la voie publique. Donc, il n'est plus en sécurité non plus sur le pont George Washington. Callahan empoigne la rambarde de la passerelle et s'y accroche fermement tandis qu'un vertige le traverse, faisant se dérober ses pieds sous lui et menaçant son équilibre. Au toucher, cette rambarde a l'air bien réelle, du bois chauffé par le soleil et gravé de milliers de messages et d'initiales imbriquées. Il lit « D-K-A-M-B » à l'intérieur d'un cœur. Il lit « Freddy plus Elena égale amour éternel ». Il voit aussi « Amor tous les latinos, L-A-T-I-N-O, et les nègres, N-A-I-G-R-E-S », le tout décoré de swastika. Il s'interroge sur cette misère orthographique qui fait que la victime n'a même pas le droit de voir son surnom favori épelé correctement. Des messages de haine, des messages d'amour, tout aussi réels qu'un battement de son cœur emballé ou que le poids des quelques billets et pièces de monnaie dans la poche avant droite de son jean. Il inspire à fond et la brise est réelle, elle aussi, jusqu'à ses relents de gasoil. « Ça m'arrive vraiment, je le sais, » se dit-il. « Je ne suis pas dans la salle numéro 9 d'un quelconque hôpital psychiatrique. C'est bien moi, je suis bien ici. Et je suis même sobre, et j'ai New York dans le dos. Tout comme la ville de Jerusalem Slot dans le Maine, avec ses morts agités. Devant moi s'étend tout le poids de l'Amérique et celui de tous ses possibles. » Cette pensée lui remonte un peu le moral, et la suivante encore plus. Pas seulement une Amérique, mais une douzaine, un millier, un million. Si c'est bien Ledbrook là-bas, et non Fort Lee, peut-être y a-t-il un autre New Jersey où la ville sur l'autre rive de l'Hudson s'appelle Lehman, ou Lee Bluff, ou encore Lee Palisades, ou Leghorn Village. Peut-être qu'il n'y a plus 42 États de l'autre côté de l'Hudson, mais 42 000, tous éparpillés en une géographie verticale et aléatoire. Et il comprend instinctivement que c'est presque certainement vrai. Il vient de buter sur un confluent gigantesque, voire infini, de mondes. Tous sont l'Amérique, mais tous sont différents. Ils sont traversés par des autoroutes et les voient. Il se dirige d'un bon pas vers le bout du pont côté Ledbrook, puis il s'arrête de nouveau. « Et si je ne retrouve pas mon chemin ?» se demande-t-il. « Si je me perds et que j'erre sans jamais pouvoir retrouver le chemin de cette Amérique où Port Lee est à l'extrémité ouest du pont George Washington et où Gerald Ford, qui l'eût cru, est président des États-Unis ?» Et alors il se dit « Et alors ?»« Putain, et alors ?» En descendant de la passerelle du côté du New Jersey, il sourit de toutes ses dents, le cœur léger pour la première fois depuis les obsèques du jeune Danny Click dans la ville de Jerusalem Slot. Deux gosses avec des cannes à pêche s'avancent vers lui. « L'un de vous aurait-il la bonté de me souhaiter la bienvenue au New Jersey, jeunes gens ?» demande Callahan en souriant plus que jamais. « Bienvenue dans le New Jersey, mec !» répond l'un d'eux sans se faire prier. Mais tous deux le dévisagent d'un air prudent et prennent bien garde à ne pas le croiser. Ils ne leur jettent pas la pierre, mais ça n'entame pas sa charmante humeur du moment. Il se sent comme un homme qu'on vient de libérer d'une prison grise et maussade un jour de grand soleil. Il accélère l'allure sans un dernier regard vers Manhattan. Pourquoi le ferait-il ? Manhattan, c'est du passé. les Amériques multiples qui s'étendent devant lui. Voilà l'avenir. Il entre dans Ledbrook. Il n'entend pas de carillon. Plus tard, il y aura des cloches et des vampires. Plus tard viendront d'autres messages tracés à la craie sur des trottoirs ou peints à la bombe sur des murs de briques. Pas tous adressés à lui, d'ailleurs. Plus tard, il verra les ignobles dans leur Cadillac rouge, leur Lincoln verte et leur Mercedes-Benz violette criarde, des ignobles aux yeux rouges comme des flashs. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil brille sur une nouvelle Amérique sur la rive ouest de l'Hudson, au bout d'une passerelle restaurée. Dans la rue principale, il s'arrête devant le restaurant Le Ledbrook, cuisine familiale. Et dans la vitrine, il voit un panonceau qui dit « Recherche cuisinier, cuisinière pour restauration rapide ». Don Callahan a fait de la restauration rapide pendant tout son séminaire et bien plus que son compte au foyer, dans l'East Side, à Manhattan. Il se dit qu'il serait sans doute parfaitement à sa place ici, au Ledbrook, cuisine familiale. Et il se trouve qu'il a raison. Même s'il lui faut trois services pour retrouver complètement la main et réussir à casser deux œufs d'une main au-dessus du grill. Le propriétaire, une espèce de grande asperge nommée Dicky Rudbacker, demande à Callahan s'il souffre de problèmes médicaux. Des trucs qui s'attrapent, comme il dit. Et se contente de répondre par un signe de tête quand Callahan lui dit que non. Il ne lui demande ni ses papiers d'identité, ni même son numéro de sécurité sociale. Il veut payer son nouveau cuistot de la main à la main, si ça lui va. Callahan lui assure que oui. « Une dernière petite chose, » lance Dicky Rudbacker, et Callahan attend le coup de grâce. Plus rien ne peut le surprendre, mais tout ce que dit Rudbacker, c'est « Tu m'as l'air d'un type qui fréquente la bouteille. » Callahan reconnaît qu'il a rarement refusé un verre. « Pareil pour moi, » répond Rudbacker. « Dans ce métier, c'est le seul moyen de ne pas virer ma boule. Je vais pas te renifler la laine quand tu arrives, du moment que tu arrives à l'heure. Débarque en retard deux fois, et alors c'est la porte. Je te le redirai pas. » Callahan fait donc le cuistot au Ledbrook, cuisine familiale, pendant trois semaines, et réside 20 mètres plus bas, au motel Le Coucher de Soleil. Sauf que ce n'est pas toujours le Ledbrook et pas toujours le coucher de soleil. Lors de son 4e jour en ville, il se réveille au lever de soleil. Et le Ledbrook, cuisine familiale, est devenu le Fort Lee, cuisine familiale. Le registre de Ledbrook que les gens laissent sur le comptoir devient le registre édition américaine de Fort Lee. Et il n'est pas spécialement rassuré de constater que Gerald Ford est de retour à la présidence. Quand Rudbacker le paye en fin de semaine, à Fort Lee, le général Grant est sur les billets de $50, Jackson sur ceux de 20 et Alexander Hamilton sur celui de 10, le tout dans une enveloppe. À la fin de la deuxième semaine, à Ledbrook, c'est Abraham Lincoln qui est sur les billets de 50 et un certain Chadbourne sur celui de 10. C'est toujours l'effigie d'Andrew Jackson qui trône sur les billets de 20, ce qui le soulage un peu, quelque part. Dans la chambre d'hôtel de Callahan, le couvre-lit est rose à Ledbrook et orange à Fort Lee. C'est pratique. Dès son réveil, il sait ainsi dans quel New Jersey il se trouve. Il se saoule deux fois. La seconde, après la fermeture, Dicky Rudbacker se joint à lui et lui rend verre pour verre. « C'était un grand pays, » gint Rudbacker. Et Callahan se dit que c'est incroyable comme certaines choses ne changent pas. Fondamentalement, le temps passe, les Jérémiades restent. Mais chaque jour, la menace se rapproche. Il a vu son premier type 3 dans la file d'attente du cinéma Le Jumeau de Ledbrook. Alors un jour, il donne sa démission. « Je croyais que tu disais que tu n'avais rien, » lui dit Rudbacker. « Je vous demande pardon. »« Tu as une saleté de maladie de la bougeotte, mon ami.
En général, ça marche avec le reste. »
D'une main rougie par l'eau de vaisselle, Ruth Baker fait mine d'empoigner une bouteille et de la boire.
Quand un homme attrape la bougeotte passé la première jeunesse, souvent, c'est incurable.
Je vais te dire, j'aurais pas une femme encore douée au lit et deux gosses à l'université. Je ferai mon baloche et je te suivrai.
Ah ouais, demande Callahan, fasciné.
Septembre et octobre, c'est toujours les deux mois les pires, fait Ruth Baker d'un air pensif. On entend l'appel, les oiseaux aussi l'entendent, et ils s'en vont.
Entendent quoi ?
Ruth Baker lui lance un regard qui veut dire
« Fais pas l'innocent. »
Pour eux, c'est le ciel, pour des gars comme nous, c'est la route. L'appel, cette foutue route de la liberté. Les types comme moi, avec deux gamins à l'école et une femme qui fait pas ça que le samedi, ils mettent la radio un peu plus fort en attendant que ça passe. Mais c'est pas ce que tu vas faire.
Il s'interrompt et jette à Callahan un regard perspicace.
Tu veux rester une semaine de plus? Je te ferai une rallonge de 25 billets. Tu fais un sacré bon monde des cristaux.
Callahan réfléchit, puis il secoue la tête. Si Ruth Baker disait vrai, s'il ne s'agissait que de l'appel de la route, peut-être qu'il resterait une semaine de plus, puis encore une. Mais il n'y en a pas qu'une. Il y a toutes ces autoroutes occultes. Et soudain, il se rappelle le titre de son livre de lecture. C'était « Des routes vers le monde entier ». Et il éclate de rire.
Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Lui lance Ruth Baker vexé.
Rien, répond Callahan. Tout. Il donne une tape sur l'épaule de son patron.
C'est un homme bien, Dicky. Si je repasse par ici, je viendrai vous saluer.
Tu ne repasseras pas par ici, dit Dicky Ruth Baker. Et il a raison, bien entendu.
3.
J'ai passé 5 ans sur la route, à peu de choses près, leur dit Callahan tandis qu'ils approchaient de l'église. Et en somme, c'est tout ce qu'il dit sur le sujet. Pourtant, ils entendirent autre chose.
Et plus tard, ils ne furent pas surpris d'apprendre que Jake, en chemin vers la ville avec Eisenhart et les Slightman, en avait entendu une partie aussi. Après tout, c'était Jake qui était le plus doué pour le Shining. 5 ans sur la route, rien de plus. Et tout le reste, vous l'intuitez, un milieu de monde perdu de la rose.
4. Il passe 5 ans sur la route, à peu de choses près. Seulement des routes, il n'y en a pas qu'une. Et peut-être que, dans les bonnes circonstances, 5 ans, c'est une éternité.
Il y a la route 71 qui traverse le Delaware et les pommes à cueillir. Il y a ce petit garçon du nom de Lars avec sa radio cassée. Callahan la lui répare et la mère de Lars lui donne un fabuleux déjeuner à emporter et ce déjeuner semble lui durer des jours. Il y a la route 317 qui traverse le Kentucky rural et ce boulot qu'il fait, creuser des tombes avec un type du nom de Pete Pedaki, qui ne veut pas la fermer une seconde. Une fille vient les regarder, une jolie fille d'environ 17 ans, assise sur un muret de pierre avec les feuilles jaunes qui tombent en pluie autour d'elle. Et Pete Pedaki essaie d'imaginer l'effet que ça ferait de lui arracher son pantalon de velours et de s'enrouler ses longues cuisses autour du cou, l'effet que ça ferait de se retrouver un pied en tôle. Pete Pedaki ne voit pas cette lumière bleue autour d'elle, et il voit encore moins ses vêtements glisser à terre comme des plumes, un peu plus tard, quand Callahan s'assied à côté d'elle et l'attire contre lui, tandis qu'elle lui caresse la jambe et colle sa bouche contre sa gorge, et qu'alors il sort son couteau et qu'il le plonge sans hésiter dans le nœud de chair, de nerfs et d'os sur sa nuque. il est devenu très bon à ce coup-là. Il y a la route 19 qui traverse la Virginie de l'Ouest, et cette petite fête foraine poussiéreuse qui recherche quelqu'un pour s'occuper des chevaux et nourrir les animaux, et inversement, lui dit Greg Chum, le propriétaire forain aux cheveux gras.
« Oui, nourrir les canassons et s'occuper des animaux, comme ça vous branche le mieux !»
Et pendant un temps, quand une épidémie d'angine laisse le forain court de main-d'œuvre, il se dirige alors vers le sud, Kaaka, essayant de devancer l'hiver. Il fait aussi Menso le médium, et ce, avec un succès étonnant. C'est dans la peau de Menso qu'il les voit, eux, pour la première fois, ni des vampires, ni des morts vivants perdus, mais des hommes grands, avec des visages pâles et attentifs, à demi dissimulés sous des drapeaux démodés à rebords ou des casquettes à la mode à très longue visière. Dans l'ombre de ces chapeaux, leurs yeux brûlent d'un rouge cendré, comme les yeux d'un raton laveur ou de putois surpris dans le faisceau d'une lampe torche en train de saccager des poubelles. Et eux, le voient-ils ? Les vampires, du moins les types 3, ne le voient pas. Les morts, si. Et ces hommes, les mains dans les poches de leurs longs manteaux jaunes et leurs visages durs cachés sous ces chapeaux et qui observent, voient-ils ? Kala n'a aucun moyen d'en être certain. Mais il décide de ne pas prendre de risques. 3 jours plus tard, dans la ville de Yazoo City, dans le Mississippi, il raccroche son chapeau de forme noire de Menso, laisse sa salopette graisseuse dans un des camions de matériel, et il plante là le fabuleux spectacle ambulant de Chum, sans s'embarrasser de la formalité de son dernier chèque. En quittant la ville, il croise un certain nombre d'affichettes clouées sur des poteaux téléphoniques. Des affichettes de ce genre. « Perdu, chatte siamoise, 2 ans, répond au nom de Ruta. Elle est bruyante, mais très rigolote. Grosse récompense. » Faites-le 764, attendez le bip et laissez votre numéro. Dieu vous bénisse pour votre aide. Qui est Ruta ? Callahan n'en sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle est bruyante, mais très rigolote. Sera-t-elle toujours bruyante quand les ignobles la rattraperont ? Sera-t-elle toujours aussi rigolote ? Callahan en doute. Mais il a bien assez de ses problèmes, et tout ce qu'il peut faire, c'est prier Dieu, auquel il ne croit plus, au sens strict du terme, que les hommes en manteau jaune ne la rattrapent pas. Plus tard dans la journée, alors qu'il fait du stop au bord de la route 3, dans le comté d'Issaquena, sous un ciel vert de gris qui n'a jamais entendu parler de décembre et de Noël, il entend de nouveau les cloches. Elles lui remplissent la tête, menacent de lui faire exploser les tympans et font perler des ruisselets de sang sur toute la surface de son cerveau. Alors qu'elle s'éloigne, Callahan se sent saisi d'une effroyable certitude. Ils arrivent, les hommes aux yeux rouges, aux grands chapeaux et aux longs manteaux jaunes sont en route. Callahan bondit du bord de la route comme un fugitif échappé d'une chaîne de forçats. Et frangit le fossé mousseux comme Superman d'un seul bond. Derrière, il trouve une clôture en bois envahie de kudzu et de ce qui ressemble à du sumac vénéneux. Il se fiche que ce soit du sumac vénéneux ou pas. Il plonge par-dessus la clôture, il roule dans les hautes herbes et la bardane, et il scrute l'autoroute à travers un trou dans le feuillage. Pendant quelques instants, rien ne se passe. Puis une Cadillac rouge zébrée d'une large bande blanche déboule à toute vitesse sur l'autoroute 3 en provenance de Yazoo City. Elle va au moins à 100 à l'heure et le trou de serrure de Callahan est petit. Pourtant, il les voit avec une clarté surnaturelle. 3 hommes, dont 2 dans des coupe-vent jaunes et le 3e portant un blouson d'aviateur. Tous 3 fument. L'habitacle clos de la Cadillac fume lui aussi.
Ils vont me voir, ils vont m'entendre, ils vont me sentir, martèle une petite voix dans la tête de Callahan, et il la chasse de force. Il chasse cette satanée certitude teintée de panique. Il se l'arrache d'un coup sec. Il se force à penser à cette chanson d'Elton John
Quelqu'un m'a sauvé, quelqu'un m'a sauvé, quelqu'un m'a sauvé la vie ce soir. Et ça a l'air de marcher. L'espace d'une seconde intolérable, il a l'impression que la Cadillac ralentit. Une seconde assez longue pour les imaginer en train de le traquer à travers ce champ à l'abandon, l'attrapant, le traînant jusque dans un appentis ou une grange désertée. Et alors, la Cadillac passe la colline en grondant, peut-être en direction de Natchez ou de Copaya. Callahan attend là encore 10 minutes. « Assure-toi bien qu'ils ne sont pas en train de te faire une feinte, mon vieux, » lui aurait dit Loupé. Mais même là, en train d'attendre, il sait qu'il ne s'agit que d'une simple formalité. Ils ne lui font pas une feinte, ils l'ont loupé, tout bonnement. Comment? Pourquoi? La réponse s'impose doucement à son esprit. Une réponse, du moins. Et il veut bien être pendu si ce n'est pas la bonne. Ils l'ont raté parce qu'il a su se glisser dans une autre version de l'Amérique, dans ce bouquet de kudzu et de sumac en train de scruter la route 3. Peut-être n'y a-t-il que d'infimes différences. Lincoln sur les billets de $1 et Washington sur ceux de 5, au lieu de l'inverse, disons. Mais ça suffit. Tout juste. Et c'est une bonne nouvelle parce que ces types ne sont pas anesthésiés comme ces morts. Et il le voit, à la différence de ces bons vieux suceurs de sang. Ces gens, qui qu'ils soient, sont les plus dangereux de tous. Callahan finit par retourner vers la route. Au bout d'un moment apparaît une vieille Ford défoncée avec au volant un noir, avec un chapeau de paille et une salopette. Il rappelle tellement le fermier noir dans un film des années 1930 que Callahan s'attend presque à le voir éclater de rire, se frapper la cuisse et s'exclamer « Si, si, patent, c'est la vérité toute nue !» Au lieu de quoi, le noir se lance dans une discussion sur la politique provoquée par une émission qu'il écoute sur la radio publique nationale. Et quand Callahan le quitte, à Shady Grove, le noir lui donne $5 et une casquette de baseball. « J'ai de l'argent, » dit Callahan en essayant de lui rendre ses $5. « Un homme qui fuit n'en a jamais assez, » répond l'autre. « Et, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous n'êtes pas en fuite. Ne faites pas injure à mon intelligence. »« Je vous remercie, » dit Callahan. « De nada, » répond le noir. « Où allez-vous, grosso modo ?»
« J'en ai aucune idée, » répond Callahan. Puis avec un sourire, « grosso modo. »